France Info.
Bienvenue dans le tourbillon de la vie, le tourbillon de l'actu qui continue à 20h03 sur France Info, les informés, avec aujourd'hui Nasser Khétan, président de Beurre FM, Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, Thierry Keller, directeur de la rédaction de Uzbek Erika et Rachel Binas de Valeurs Actuelles, où vous êtes journaliste. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Les informés, jusqu'à 21h sur France Info. Avec cette annonce, il y a quelques minutes, le maire de Los Angeles aurait donc conclu un accord avec le CIO, le Comité International Olympique, pour organiser les Jeux Olympiques en 2028 dans sa ville à Los Angeles. Ce qui laisse donc la voie ouverte à Paris pour 2024. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, Stéphane Peu, qui êtes député de Seine-Saint-Denis ? On sait qu'il y aura beaucoup d'organisations et beaucoup d'infrastructures en Seine-Saint-Denis.
C'est une très très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle pour d'abord pour la France qui n'a pas accueilli les Jeux depuis 1924 et puis pour Paris qui porte la candidature, mais pour être très très exact, l'essentiel des manifestations auront lieu en Seine-Saint-Denis, d'abord au Stade de France qui sera le temple des Jeux, mais le village olympique sera sur Saint-Denis et Saint-Ouen, le village des médias sera au Bourget, la piscine olympique qui est le principal équipement sportif qui n'existe pas, qui doit être réalisé pour accueillir ces Jeux et qui sera pérennisé. Sera construit à Saint-Denis, à côté du Stade de France, et dans un départ.
Donc pour vous, c'est une excellente nouvelle pour le dynamisme de votre,
département. C'est une très bonne nouvelle pour le pays, pour la capitale Paris, et c'est une très bonne nouvelle pour la Seine-Saint-Denis parce que ça va être un accélérateur d'infrastructure.
Rachel Binas, vous êtes moins enthousiaste sur ces Jeux Olympiques.
Beaucoup moins.
Pourquoi ?
Le budget déjà fait assez peur. On estime le coût à 6,2 milliards d'euros, ce qui est énorme en cette période.
Oui.
En cette période justement de crise, de restrictions budgétaires, on sait également les problèmes généraux que peuvent poser les Jeux Olympiques de manière générale. Ça accélère les processus, le processus de gentrification très souvent des grandes villes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, ça pousse les gens de classe populaire un petit peu à l'extérieur,
d'accord,
plus loin. Ça fait des villes qui sont parfois plus chères.
Est-ce que ça a provoqué cette crise ? Parce qu'on peut peut-être voir ce qui s'est passé du coup en 98 avec le mondial.
Avec le Stade de France.
Ouais, Est-ce que ça a provoqué ?
Non, justement, parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup de la volonté politique qu'on met en face de l'organisation de ces Jeux. De deux choses l'une, soit on confie la réalisation de ces infrastructures, la vie de ces infrastructures au marché, mais dans un pays comme la France où l'intervention publique reste importante, le Stade de France a été une opération mixte. Ça a surtout été un accélérateur d'infrastructures. Nous sommes en Seine-Saint-Denis dans un département qui est souvent oublié, souvent en déficit d'infrastructures, en déficit de transports en commun. Il suffit
On peine vraiment ces infrastructures,
oui, mais
on peine à leur donner une seconde vie.
Mais demandez aux habitants de Saint-Denis qui prennent la ligne 13 du métro tous les matins s'ils sont pas contents de voir, avec la perspective des Jeux Olympiques, la ligne 14 prolongée jusqu'à Pleyel accélérée, le réseau de transport du Grand Paris gagné 10 ou 15 ans sur le calendrier initial. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre de rendre la vie des habitants de ce territoire plus facile. Après, sur les phénomènes d'inflation immobilière, à nous, collectivités locales, députés, pour prendre des mesures, il est possible de maîtriser le foncier.
Nasser Khétan,
on n'est pas obligé de tout donner aux promoteurs immobiliers.
Sur cette nouvelle, voilà. Sur cette info toute chaude.
Bon, moi, globalement, Nasser, je pense Khétan, qu'on peut qu'être satisfait. C'est vrai que c'est Paris. Paris, c'est la France, c'est Paris. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi que les villes de province puissent pouvoir bénéficier aussi de l'impact, des infrastructures, un petit peu du budget. Et moi, je reviens de Marseille, et c'est vrai que les villes de province,
il y aura des choses à Marseille, hein.
Souffrent un peu de. Voilà. S'il y en a que pour Paris, ça sera dommage. Il y aura aussi des créations d'emplois. On parle de plusieurs dizaines de milliers de créations d'emplois. Et puis, on sort quand même des années d'attentats, etc. Et moi, j'en ai un peu marre des religions. Moi, je vous le dis franchement. et si c'est la religion du sport qui doit prédominer, eh ben je trouve qu'il faudrait justement autour du sport qui
vous pensez que ça peut être un socle, ouais, un ciment jusqu'à 2024 sport, pour préparer ces jeux.
Ouais, et je crois qu'il faut un accompagnement culturel. Il y a des générations entières là, on a vécu vraiment des années catastrophiques.
On sait qu'on va régler les problèmes avec le sport.
Le sport est quelque chose de très positif pour les jeunes. On peut et puis y avoir un accompagnement culturel lors de ces Jeux Olympiques. Et moi voilà, donc moi je trouve que globalement c'est plutôt positif.
Eric Keller, vous pensez qu'on va solutionner les problèmes de société avec Gio?
C'est quand même des challenges à relever.
Non, on va pas solutionner tous les problèmes avec les JO, mais je crois qu'on peut se féliciter que pour une fois la France gagne. C'est-à-dire, on sort de longues périodes de lose, on s'est fait bananer Londres nous s'est passé devant il y a 10-15 ans. Ça va, je crois qu'on peut se féliciter et surtout dire aussi que le département de la Seine-Saint-Denis est, je crois, vous me direz si je me trompe, le département métropolitain le plus jeune de France. Et que de ce point de vue-là, oui, c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, quand on a une bonne nouvelle, on va pas commencer à dire « Ah, mais en fait, ça va se gentrifier, tout ça ». Bon, ça va. Et puis, c'est pas très grave que ça se gentrifie, la Seine-Saint-Denis. Si ça se trouve, les gens de Seine-Saint-Denis sont d'accord et ils sont contents de ça. Je veux dire, à un moment donné, les
projecteurs sont... Vous, là, sont...
Oui, je crois avoir compris. Tout à fait. Écoutez,
pour ceux qui ne nous voient pas, vous êtes côte à côte.
Oui, donc, on est genre la droite. Ça,
c'est pas les yeux dans les yeux.
un projet de plus de 6 milliards d'euros dont on ne connaît pas, parce qu'on ne le connaît jamais. On ne connaît pas aujourd'hui les retombées financières, parce que souvent c'est de ça qu'on parle.
C'est un investissement. Les JO sans dépassement, c'est un exploit.
Non seulement il y a ça, et il y a ensuite, parce qu'en fait on vous explique que ça va attirer des touristes, etc., qu'on va s'y retrouver, etc. En réalité, on ne peut pas le savoir. À aucun JO, on ne peut jamais déterminer justement le bénéfice ensuite que ça sera engendré. Et dépenser plus de 6 milliards d'euros des équipements qui vont peiner à trouver une seconde vie en ce contexte, dans le contexte actuel,
c'est sûr que non.
Ces
années, on a tellement acheté des armes, l'armée, les guerres, etc., sont devenues au centre de l'actualité, y compris d'un gouvernement de gauche qui n'a jamais vendu autant d'armes. Écoutez, faire la paix et puis quelques milliards d'euros pour développer le sport.
Faire la paix, voilà un mot qui va nous emmener parfaitement sur le débat suivant. La violence vis-à-vis des élus, est-ce un nouveau risque du métier ? À tout de suite dans les informés de France Info. 20h10, toute l'actualité, Maxime Fayolle.
Le tribunal a choisi ce soir de ne pas choisir dans le dossier GMES. La décision sur l'offre de reprise de GMD est reportée jusqu'au 4 septembre. Les syndicats seront consultés sur cette décision. L'activité du site de la souterraine est repoussée jusqu'au 18 septembre. Un mois de prison ferme requis ce soir contre l'agresseur de Lauriane Rossi, la députée La République En Marche, agressée hier sur un marché de Bagneux. Son procès en comparution immédiate a commencé ce soir. Pas de train à la gare Montparnasse ce soir, de 22h jusqu'à 6h demain matin. 50 techniciens vont tenter de trouver la panne qui est à l'origine de la journée catastrophe d'hier. La SNCF n'en connaît toujours pas la cause et Paris pourrait bien décrocher les Jeux Olympiques de 2024. On apprend ce soir que Los Angeles et le Comité Olympique International se seraient mis d'accord pour l'organisation des Jeux de 2028.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
20h11, les informés de France Info. Depuis quelques mois, les violences envers les élus se multiplient. Ce week-end, c'est la députée de la République En Marche, Lauriane Rossi, qui a été agressée. Elle a pris un coup au visage, à la tempe. Sur France Info, elle expliquait qu'elle sortait perplexe de cet épisode. Écoutez.
Je pense qu'effectivement, cet incident, cette agression pose de nouveau, effectivement, question, hein, tant du point de vue du respect, finalement, des citoyens vis-à-vis de leurs élus, des élus de la République, et par ailleurs, s'interroger aussi sur notre sécurité.
Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a quelques semaines, avait pris un coup, elle aussi, vous en souvenez, c'était sur un marché pendant la campagne des législatives, elle avait interrompu sa campagne d'ailleurs. François Fillon, on l'a oublié, il a pris de la farine sur le visage. Manuel Valls, lui, c'était une gifle. Emmanuel Macron, un œuf. Sans oublier la permanence du Front National à Aurillac qui a été saccagée, ou celle du Parti Socialiste à Grenoble, criblée de balles. Mis bout à bout, ça fait beaucoup. Est-ce que vous vous sentez menacé, Stéphane Peu?
Non,
en tant que député.
Je fais beaucoup. J'ai encore passé mon week-end dans les cités populaires de Saint-Denis et de la Courneuve.
Vous sentez pas plus d'agressivité qu'avant ?
Non, il y a une très grande défiance Et parfois une colère vis-à-vis des élus. Et cette colère, elle a pour principale source l'incapacité récurrente des politiques à tenir d'une part leurs engagements et à régler avec un tant soit peu d'efficacité les problèmes qui sont posés au pays. Donc, c'est bien évidemment très regrettable. Il me semble pas que ce soit tout à fait nouveau, c'est-à-dire que aussi loin que je remonte dans ma mémoire.
Nouveau non, mais là il y a quand même un phénomène
d'accumulation quand même. Mais parce que la défiance à l'égard des élus a pris un sacré coup ces dernières années, et je pense que avoir de manière répétée des élus qui vont dans les campagnes électorales faire des promesses et prendre des engagements pour immédiatement arriver en responsabilité, tourner le dos à ses engagements, tout ça contribue très largement à créer de la défiance. Alors forcément, chez les esprits les plus fragiles ou les plus instables, ça peut se traduire par des actes de violence qui sont absolument inadmissibles. Et moi, je me félicite que la personne qui a touché et frappé Madame Rossi soit condamnée à la prison ferme ce soir.
C'est le réquisitoire. Ouais. Ouais.
Mais je crois qu'il faut. Enfin, pardon, mais c'est vous qui êtes en première ligne, donc je m'adresse à vous. Ouais. Attention au syndrome de Stockholm. C'est pas parce que les élus ne respectent pas leurs engagements et que tout dépositaire de l'élite ou de ce qui serait censé donner l'exemple a des soucis avec ses engagements qu'on doit accepter ce type de comportement.
Je crois que là on est
j'ai pas dit que évidemment oui. je dis pas ça hein. Mais il faut vraiment faire attention à pas octroyer une sorte de blanc-seing intellectuel à ce type d'agissement. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Effectivement, les élus, les politiques sont en première ligne. D'une certaine manière, c'est un peu comme les coureurs du Tour de France. Ils sont au contact de la population.
Faut pas s'habituer à ça, en fait.
Faut pas s'habituer à ça. Et je crois qu'on est aussi dans une période historique où tout le monde s'autorise un petit peu. Hein, sous prétexte que j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, je suis un citoyen émancipé, remusclé par le numérique et que donc j'ai tous les droits et je suis et j'ai le droit. Bon, je crois qu'il faut vraiment faire attention et mettre le haut là et dire non, ça c'est juste pas possible. Je note simplement, pardon, là récemment on a eu droit à deux femmes qui se sont faites agresser par deux individus hommes blancs sexagénaires. Il va falloir aussi qu'on se pose des bonnes questions.
Nasser Khétan.
Moi, je crois qu'il faut savoir raison garder, parce que c'est pas nouveau, ça. Je veux dire, nous qui sommes des militants depuis très très longtemps, je veux dire, les militants qui, sur les marchés, distribuent des tracts, etc., se font agresser. Je veux dire, c'est des choses qui remontent à des années et des années. Les couleurs d'affiches se font agresser.
Alors, pardon, mais là
ça, entre ça, couleurs d'affiches,
ça ne rend pas les choses plus tolérables. Mais là, ce sont les élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait les élus sur son piédestal, c'est plus le cas.
Il y a des chaînes d'infos qui jettent un zoom, etc., exagéré. Bon, OK. Bien sûr que c'est condamnable, et c'est la démocratie, la République ne peut pas tolérer ça. La deuxième chose, c'est que vraiment, on sent aussi que la démocratie est fragile. C'est un combat de tous les jours. Mais depuis des années, depuis toujours, des corps d'affiches ont été tabassés, ont été assassinés. Il y a des militants politiques du Parti communiste, du Parti socialiste, des Républicains, de droite, de gauche, etc., qui se font agresser. Donc, les élus, c'est vrai que
quand on colle des affiches, on sait, on l'a fait tous. Hein,
oui, mais quand même.
On a ce qu'on appelle du matériel c'est démocratique
pareil,
avec nous.
Être dans la rue, être dans la rue et délivrer un discours, c'est comme coller une affiche, c'est pareil.
Ouais, mais on n'est pas armé.
Mais donc, est-ce que je veux dire aussi
qu'il faut pas céder au relativisme. Alors je ferai pas comme mon confrère à droite Thierry Keller. Je vais pas raciser justement ces histoires. En effet, cette agressivité, elle a toujours existé au sein de la politique française. Maintenant, aujourd'hui, on le voit, on l'a vu ces dernières années, ces derniers mois de manière plus forte, ça a pris une tournure extrêmement grave. On l'a dit, c'est quand même dernièrement deux femmes qui se font agresser par deux hommes. Alors je sais pas, Monsieur Peu, si ils ont des troubles psychologiques ou si ce sont des gens faibles. En tout cas, il y a une grande lâcheté là-dedans. Et certes, la société en effet devient plus violente. C'est extrêmement extrêmement difficile. Il y a une espèce de les institutions, les politiques sont désacralisées, mais légitimées ou en tout cas justifier la violence, ça c'est inconcevable.
Je voudrais vous faire écouter la remarque ce matin de Claude Goasguen, qui lui a été élu plusieurs fois, je crois que c'est son quatrième mandat à l'Assemblée nationale, député Les Républicains. Écoutez.
J'ai bien vu le débat cette semaine, quoi. On était tous nauséabonds, on dit certains députés. L'IRFM, c'était de l'escroquerie. La réserve parlementaire, c'était du clientélisme. Vous savez, au bout d'un moment, quand vous entendez ça toute la journée à la télévision et que vous avez l'esprit un peu fragile, vous aboutissez à des crises de nerfs, quoi.
Est-ce que finalement tout ce débat depuis plusieurs semaines, et là avec la semaine dernière le débat sur la loi sur la confiance dans la vie politique, ne sont pas contre-productifs finalement ?
Bah, moi je pense que on a effectivement discuté toute la semaine dernière de la loi, non pas de moralisation, mais pour restaurer la confiance dans la vie publique. Et on a fait une toute petite loi pour un grand sujet, parce que la confiance dans la vie publique, c'est pas seulement la confiance vis-à-vis...
Est-ce que ça n'a pas justement créé de la tension et de la défiance vis-à-vis des politiques ?
Ça crée de la tension, surtout que dans la semaine où on discute de ça, on apprend que Mme Pénicaud, qui est ministre du Travail, a touché 1 million d'euros de plus-value en faisant un coup de bourse sur un plan social chez Danone. Et donc, il y a une espèce de cynisme...
Elle a levé ses stock options après que le cours a progressé parce que Danone avait supprimé le stock.
Donc ça, c'est, vous pouvez pas imaginer à quel point ça révolte l'opinion
publique.
Mais donc
quoi, il faut la taper, pardon, mais
bien sûr que non.
Non, mais c'est une vraie question, parce que là, vous politisez la question. Sincèrement, c'est un vrai débat qui est extrêmement intéressant. C'est, est-ce qu'on a le droit d'exercer de la violence physique là où on doit répondre à de la violence, entre guillemets, symbolique?
On n'a jamais le droit d'exercer de la violence physique.
Non, mais c'est comme si la deuxième fois.
Et on doit la condamner, mais j'attire votre attention sur la violence social d'un certain nombre de comportements de l'élite de ce pays.
C'est bien ce que je dis, un syndrome de Stockholm.
Non, c'est pas un syndrome de Stockholm.
Madame Pénicaud a pris 1 million, donc on a le droit de taper un député en marche.
Je n'ai pas dit ça, je dis qu'il faut, que c'est extrêmement violent pour des gens qui sont mis à la rue, qui sont précarisés.
Donc vous comprenez cette violence, d'entendre que
grâce à 900 licenciements, elle peut faire 1 million d'euros de coûts de bourse, c'est quand même quelque chose d'absolument intolérable.
Que les polémiques et les scandales aggravent la situation, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces agressions des politiques, elles s'inscrivent aussi dans un contexte un peu plus important, celle d'une France qui est en proie à des violences, qui augmentent, les violences contre les personnes augmentent, les violences sexuelles augmentent, et ça, il ne faut pas l'oublier.
On va marquer une pause, on poursuit ce débat sur France Info dans la suite des informés. Il est 20h20, toute l'info, Maxime Fayol.
La mort de l'auteur et du comédien américain Sam Shepard ce soir, il avait 73 ans. Sam Shepard, notamment connu pour ses rôles dans Les Moissons du Ciel de Terrence Malick ou encore L'étoffe des héros de Philippe Kaufman. La décision du tribunal de commerce de Poitiers sur GMES repoussée au 4 septembre prochain. Nouveau report de la part du tribunal. Il n'y a qu'une seule offre, celle de GMD qui prévoit de reprendre 120 des 277 salariés du site creusois de la Souterraine. De nouveaux centres d'accueil pour migrants vont ouvrir leurs portes dans les Hauts-de-France, annonce aujourd'hui du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. 300 nouvelles places seront créées. Au total, le ministre de l'Intérieur qui demande par ailleurs un rapport sur les violences policières à Calais. Et en sport, la bonne nouvelle peut-être pour Paris qui pourrait décrocher les Jeux de 2024. Le comité olympique et Los Angeles sont tombés d'accord pour l'organisation des Jeux de 2028. Une conférence de presse est prévue cette nuit à 2h du matin pour la bonne nouvelle peut-être.
Les informés, Guillaume Cahour.
Les violences envers les élus, nouveau risque du métier, avec un point d'interrogation, titre volontairement interpellant. Nous en parlons ce soir avec Nasser Khétan, président de Beurre FM, Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, Thierry Keller, directeur de la rédaction de Uzbek Erika, et Rachel Binas, journaliste pour Valeurs Actuelles. Alors ce qui étonne tout de même dans l'agression de Lauriane Rossi, députée de La République En Marche ce week-end, ce qui surprend, c'est que finalement ça visait une nouvelle élue, une élue issue du mouvement d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que les députés de La République En Marche sont désormais assimilés à des élus lambda, des élus entre guillemets de l'ancien monde, pour reprendre l'expression des macronistes ?
La réaction, on l'a dit dans différents commentaires toutes ces dernières semaines, c'est que c'est le grand chelem. À l'Assemblée nationale, ça va être le grand chelem bientôt dans les villes, au Sénat,
au sénatorial,
un peu partout. Et que le danger, c'est qu'il n'y ait pas disons, de mouvements d'opposition, de contre-pouvoir, etc. Mmh. Cette façon aussi de taper un peu sur les syndicats, de les amocher, cette façon de dire nous, on n'est pas un parti politique comme les autres, etc., etc. C'est, le danger, c'est que c'est que l'opposition se passe dans la rue. Donc, ce genre d'événement aussi attire sur l'attention que il faudrait pas que la contestation se passe dans la rue. Donc il faut condamner ce genre de choses de façon catégorique, parce que c'est contraire à la démocratie et à la République. Mais il faut que ça attire la réflexion sur le fait que En Marche ne peut pas être hégémonique. Il faut qu'il y ait de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il faut que les syndicats soient respectés. Il faut des alternatives, etc.
Si
les gens sentent que tout est cuit, tout est joué d'avance, et tout est, etc., des choses comme ça peuvent se renouveler. Les gens peuvent se faire, entre guillemets, justice eux-mêmes dans la rue, sur les marchés. Et ça, c'est pas bon.
Thierry Keller.
Non, mais je crois qu'effectivement, là où vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est la self-justice. C'est quand on n'est pas content, on décide de prendre son bâton de maréchal, son coup de poing, et puis on y va et on cogne. Là, il y a un vrai problème. C'est pas un problème qui est, je pense, un problème d'hégémonie par rapport aux députés En Marche, puisqu'on a bien vu que NKM avait été victime de ça et que finalement, ça peut toucher à peu près n'importe qui, du moment que ce soit quelqu'un de, disons, physiquement assez faible, ni armé, ni gros bras, et ainsi de suite. Je crois qu'effectivement.
Manuel Valls, quand il se prend une claque, il a quand même un paquet de malabars autour de lui. Hein.
Oui, oui, non, mais effectivement, il y a des mouvements. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, Manuel Valls lui-même n'étant pas non plus un malabar.
Oui, certes.
Mais peu importe, on ne va pas faire des débats physiques sur les individus. La question, c'est qu'est-ce que ça dénote comme type de sentiment de j'ai le droit de tout faire. Voilà, et en fait, c'est cette espèce de licence qui est accordée à chacun dès lors que on octroie le droit à tout le monde de faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà.
Il y a une question que soulevait tout à l'heure, vous l'avez entendu dans ce témoignage de Lauriane Rossi, qui disait ça pose aussi une question sur notre sécurité. Évidemment, on peut pas mettre un garde du corps ou un policier derrière chaque élu local, parce qu'elle élargissait le débat, elle, à tous les élus locaux, pas uniquement aux députés. Mais comment assurer la sécurité, finalement, de ces élus qui sont pris pour cible par certains, parfois ça se traduit par des agressions. Comment est-ce qu'on peut les protéger ? Stéphane, député communiste.
La protection, elle est difficile. Hein,
Ça veut dire que vous ne pouvez plus vous balader tout seul sur les marchés ? Il vous faut forcément des militants avec vous ?
Moi, jusqu'à présent, je me balade tout seul.
Vous êtes toujours tout seul ?
Non, toujours non, quand je vais sur les marchés. Non, en principe, on accompagne.
Quand vous êtes sur les marchés.
Mais moi, je me promène dans la ville. J'ai fait plein de manifestations ce week-end où j'étais seul ou éventuellement accompagné d'une personne. Mais pour la plupart du temps, j'étais tout seul. Non. Si vous voulez, bien sûr.
La question de sécurité, c'est pas une question pour vous?
Si, c'est une question. Personne n'est à l'abri d'avoir quelqu'un d'irascible. En plus, si vous voulez, il y a de plus en plus un rapport à la politique qui est un rapport consumériste. Bon, et c'est encore plus vrai avec les maires ou les élus locaux qu'avec les députés qui, par définition, n'ont peu de moyens, surtout depuis la fin du cumul des mandats, peu de moyens de distribuer des logements, de distribuer ceci ou cela. Donc, il faut rétablir une relation politique et non pas consumériste avec les électeurs, essayer d'éviter les pièges du clientélisme, par exemple, en essayant de mettre de plus de digues possible pour éviter le clientélisme. Et puis, il faut remettre du respect dans la société, parce que autant je suis d'accord pour condamner fermement les violences, mais quand vous avez un monde politique et plus largement une espèce d'oligarchie, dans lequel je mets le monde médiatique, le monde économique, le monde financier, le monde politique, qui est dans un irrespect total du peuple, dans un mépris, dans un éloignement, dans des mesures et des postures et des prises de parole qui sont extrêmement méprisantes pour un peuple qui de plus en plus souffre des décisions qui sont prises. À un moment donné, ce manque de respect de l'élite vis-à-vis du peuple se traduit en retour aussi par un irrespect du peuple vis-à-vis des élites.
Vous sentez cet irrespect et cette de l'élite vis-à-vis du peuple?
Bien sûr qu'il y a une défiance généralisée, ça va sans dire. Après, est-ce que cette violence est légitime? Je ne crois pas un instant. Et je vais rappeler simplement un incident qui a eu le 13 juin dernier à Montfermeil. Xavier Lemoine, qui est donc le maire de cette commune, était devant sa mairie et un jeune homme en scooter a cru bon de le renverser. Il a été hospitalisé. Les médias s'en sont fait très peu l'écho. Je ne sais pas si c'est une espèce d'indignation à géométrie variable eu égard à son étiquette politique, mais c'est quand même extrêmement grave. Et je ne sais pas dans quelle mesure on peut imaginer ou laisser penser qu'il y a une forme de violence légitime derrière cet incident. Ça peut être celui-ci, comme celui dont a été victime NKM ou dernièrement la députée La République En Marche.
Moi, je crois que le suffrage universel, c'est le plus grand protecteur. Il faut respecter le suffrage universel, c'est un acquis de la démocratie. Il faut développer la citoyenneté, les formes d'engagement. Et un élu, c'est un élu du peuple. Il doit être chez lui, pas dans le peuple, parmi le peuple. Il ne doit pas se faire protéger. C'est pas, on n'est pas là avec des gardes du corps qui vont coller des affiches, avec des boîtes de com qui vont faire la campagne, etc. C'est quand même un des atouts de la République française. Et je pense que le suffrage universel, c'est le plus grand protecteur d'un élu, quel qu'il soit. Quoi.
Bien, merci à tous les quatre pour ce débat. Est-ce que la violence envers les élus est un nouveau risque du métier? Tiens, justement, nous allons continuer à parler de confiance vis-à-vis des députés, des parlementaires, de manière un peu plus large que le débat qui a animé la semaine dernière, avec le président de l'Assemblée nationale qui veut réformer le fonctionnement de l'Assemblée, casser les codes sans casser la démocratie. Nous allons en parler. Vous vous souvenez de ce parti, le Front National? Ça vous parle? Complètement disparu des écrans radars. Mais où est passé le Front National? Dans quelques minutes, la suite des informés. Pour l'instant, la météo et les infos.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et Sébastien Léas pour Météo France.
Attention aux orages localement forts cette nuit. Météo France a d'ailleurs émis une vigilance orange sur plusieurs départements. Demain matin, on retrouvera cet axe orageux entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Champagne-Ardenne. L'après-midi, les averses orageuses toucheront le Massif central, la Bourgogne, la Lorraine et la Champagne. Quelques orages sont également attendus demain après-midi sur le relief des Pyrénées, du Jura et des Alpes. Entre la Bretagne, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, les éclaircies seront belles, notamment près des rivages. De l'Alsace à la Provence, la matinée sera bien ensoleillée, mais le ciel va se voiler demain après-midi. Du Bas-Languedoc aux plages sud de l'Atlantique, les nuages bas du matin vont se morceler un peu demain après-midi et quelques éclaircies arriveront à percer. Il fera déjà très chaud dans le sud-est au lever du jour avec parfois plus de 25 degrés. Demain après-midi, les maximales seront comprises entre 20 et 35 degrés du nord-ouest au sud-est.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
(20h30) l'info sur France Info, Maxime Fayol.
Toujours pas d'avancée ce soir dans le dossier GMES. Le tribunal de commerce décide une nouvelle fois de repousser l'examen de l'offre de l'emboutisseur GMD. Le tribunal prendra sa décision le 4 septembre, mais l'activité sera poursuivie jusqu'au 18 septembre. Devant le tribunal, Maxime Deps, de nombreux salariés étaient présents pour entendre cette décision.
Oui, ils étaient une centaine de salariés à avoir fait le déplacement en bus pour la plupart, à vélo pour d'autres. C'est devant les grilles du tribunal qu'ils ont suivi l'audience. Une heure et demie de patience, d'anxiété avant la sortie de l'avocat des salariés, Maître Bory, outré, dit-il, de l'attitude des gens chargés de statuer sur le dossier.
Je dis, mais c'est pas des gens qu'il s'agit de licencier, c'est des postes qui ne sont pas repris. N'empêche que derrière...
C'est honteux ! C'est honteux !
À la sortie, toujours le même sentiment pour les salariés, l'impression de se faire balader, mais une avancée. Toutefois, le tribunal va finalement accorder un nouveau délai jusqu'en septembre pour mieux étudier le dossier, mais cette fois avec les délégués syndicaux, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Yann Ogras de la CGT.
On a obtenu quelque chose d'intéressant, mais bon Dieu, merde. Parce qu'on n'arrête pas de crier depuis des mois, quoi.
Cette avancée obtenue, les syndicats espèrent toujours faire pression pour que GMD, le potentiel repreneur, augmente son offre et garantisse des indemnités suffisantes à ceux qui resteront sur le carreau.
Comment on compte faire pression? Mais comme on a fait jusqu'à présent, peut-être on va aller continuer à bloquer les sites PSA, bloquer les sites Renault, et pourquoi pas aller secouer un peu l'État. On a un président de la République, on l'a pas beaucoup vu jusqu'à présent sur ce dossier, il devait soi-disant nous donner un coup de pouce. Bon, il a sûrement des petits pouces, mais pour le moment, on n'a pas senti en tous les cas.
À Poitiers, devant le tribunal de commerce, Jean-Marie Porcher, Maxime Debs, France Info.
La messe est dite ce soir pour Paris 2024. C'est en tout cas ce qu'affirme l'adjoint au sport à la mairie de Paris sur Twitter, Jean-François Martins. Le CIO et Los Angeles ont trouvé un accord pour l'organisation des Jeux de 2028. Une conférence de presse doit annoncer la nouvelle cette nuit à 2h du matin. Un mois de prison requis ce soir contre l'agresseur de la députée En Marche, Lauriane Rossi. Il comparaît après avoir frappé au visage la députée hier sur un marché de Bagneux en Haute-Seine. La décision est attendue en soirée. 6 personnes interpellées au Havre après une saisie de 800 kilos de cocaïne dans le port de la ville. Une enquête est allée sur plusieurs mois, précise le procureur de la République. La valeur de la drogue est estimée à 35 millions d'euros. Les 6 personnes sont en garde à vue ce soir. Elle peut durer jusqu'à 96 heures. La température moyenne de la planète pourrait bien augmenter de plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, selon les scientifiques. C'est bien au-delà de ce que prévaut l'accord de Paris sur le climat. Si ce seuil est franchi, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les populations, estiment les auteurs de cette étude. Il est 20h33 sur France Info. On retrouve la suite des informés, Guillaume Caour.
Les informés, Guillaume Caour.
Autour de la table des informés ce lundi soir, Nasser Khétan, président de Beurre FM, Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, Rachel Binas, journaliste pour Valeurs Actuelles, et Thierry Keller, directeur de la rédaction de Uzbek Erika. Puis je cite également votre livre, Ce qui nous rassemble, comment peut-on encore être français?
Vous faites bien très ça. Bien de le citer.
Je le fais bien.
C'est un excellent livre.
Que vous avez co-signé avec Arnaud Zigerman.
Zigerman.
Très bien. Alors nous allons parler maintenant de ce débat sur la jungle de Calais. Est-ce qu'on va recréer cette jungle de Calais que les autorités ont eu tant de mal à démanteler? Vous le savez, la mairie de Calais ainsi que le ministère de l'Intérieur ont l'obligation de recréer des points d'accès à l'eau pour les migrants. Le Conseil d'État a rejeté l'appel de la ville de Calais et du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Natacha Bouchard, la maire de Calais, est opposée à cette décision. Elle ne compte pas la respecter. Écoutez.
Je ne peux pas, pour ma population, accepter la décision du Conseil d'État qui me contraint. Je suis là pour protéger ma population et je considère que le dossier n'a pas été bien lu, pris en compte et compris surtout.
Elle pense qu'on va recréer une jungle à Calais. Qu'est-ce que vous en pensez, Nasser Khétan?
Là, on marche sur la tête. Moi, ça me rappelle, dans une de mes vies, j'étais élu au conseil municipal à Paris. Il y avait une bagarre entre les gens des Insoumis aujourd'hui avec Daniel Simonet et puis la maire de l'époque, qui était Frédéric Calandra. Ils se demandaient si les gens des puces, qui vendaient des puces, devaient avoir des toilettes. C'est-à-dire qu'il fallait des points d'eau et des toilettes, alors que c'était évident que pour des raisons d'hygiène et de salubrité publique et de cohésion et de paix sociale, il fallait... Et là, on est en train de le Conseil d'État, on demande au Conseil d'État s'il faut de l'eau pour des gens qui ont traversé la Méditerranée, qui crèvent, qui n'ont pas de boulot, qui ont échappé à la mort, et c'est quelques centaines, et on est en train de se dire, est-ce qu'ils doivent avoir de l'eau? Moi, je trouve qu'on marche sur la tête.
Il y a des centres d'accueil pour les migrants.
D'accord, mais je veux dire que là où ils sont, il faut quand même qu'ils puissent boire, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent se vêtir, et qu'ils puissent être à l'abri. C'est un minimum, on est quand même une des premières puissances du monde, et se demander s'il faut de l'eau pour des gens qui ont échappé à la mort et qui crèvent, on marche sur la tête, quoi.
On a l'impression que la maire de Calais, Natacha Bouchard, met ça sur un terrain particulier, quasiment philosophique, la distinction éthique de conviction, éthique de responsabilité. Et que donc, pour des raisons de responsabilité, pour éviter qu'un point de fixation ne se crée, elle n'obéira pas.
C'est pas qu'elle veut pas
donner
l'eau. C'est que ça refasse le jungle à Calais.
Qui est de l'eau, ça sera pas plus un point de fixation qu'autre chose.
On parle simplement, en fait, de mettre des points d'eau, hein. Et, je vais citer simplement une phrase du rapporteur public du Conseil d'État qui a été suivi par haute juridiction administrative. Il a estimé que le droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants constituait une liberté fondamentale qui ne saurait dépendre de choix politiques. Le message est très clair. Je le répète, on parle simplement d'installer des points d'eau. Je pense que Natacha Bouchard prend un risque extrêmement important.
Tout le monde est contre la vie de Natacha Bouchard.
Néanmoins, je pense une petite chose, on aura peut-être l'occasion de revenir. On ne peut pas non plus faire l'économie d'une réflexion sur la maîtrise de notre immigration, ça c'est clair. Et cette décision ne balaie pas comme ça la question de l'immigration, on ne prononce pas de gros mots, hein, mais du choc culturel, de quelle immigration arrive et de la prise en charge des migrants qui sont actuellement sur notre territoire.
Bon, d'accord, non, mais il y a un problème immédiat qui est, je suis d'accord avec Nasser, on marche sur la tête. La question, c'est, on est en France et c'est le Conseil d'État qui dit, en fait, faut donner de l'eau aux gens. Non, mais juste, faut atterrir, deux secondes. Après, il y a une question qui est effectivement plus macro, plus politique. Bon, donc moi, je suis maire de Calais, je reconnais que je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'applique la décision du Conseil d'État. Et là, on retombe exactement sur la même chose et le même débat qu'on avait il y a un instant sur est-ce que j'ai le droit de frapper un élu ? Est-ce que j'ai le droit de faire tout ?
Essayons de se mettre dans la... Parce que j'entends ce que vous dites. Essayons de se mettre dans la tête de certains Calaisiens et puis de la maire, Natacha Bouchard, qui sort d'années absolument... horrible pour eux aussi, hein, rien à voir avec les migrants, mais la vie a été dure aussi pour les Calaisiens, avec la jungle de Calais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur légitime de se dire, si on remet la base qui est de l'eau, bah ça y est, on recrée tout l'écosystème autour.
Oui. Pour finir deux secondes, pardon.
Stéphane Peu.
D'abord, bien évidemment, on peut comprendre les habitants de Calais et même la maire de Calais qui a déjà été confrontée au problème de la jungle et on sait que c'est un problème considérable pour toute sa ville et pour toute la région. Le problème, c'est que, moi, il y a deux choses qui me frappent dans cette... trois choses qui me frappent dans cette décision. Un, c'est qu'il faut que le Conseil d'État se mêle de savoir s'il faut des points d'eau ou pas, ce qui est quand même la base minimum de se pouvoir boire, se laver, enfin quand on est bon, c'est le minimum. La deuxième chose qui me choque, c'est que en dépit de toutes les difficultés que peut rencontrer la maire de Calais, c'est quand même un problème quand une autorité publique comme un maire dit qu'elle va s'affranchir d'une décision de justice prise par le Conseil d'État. Enfin, à un moment donné, on est nous les élus, on a quand même un devoir d'exemple. Notamment dans le respect de la loi, c'est quand même...
Ça donne un mauvais signal.
Quand même. Ou alors, comment on va expliquer ensuite à nos concitoyens qui sont en droit à la justice en plus. Enfin, franchement, donc, il y a quand même... faux. Et alors, après, là où je viendrai peut-être pour la défendre, c'est de dire, on ne peut pas, dans ce pays, laisser les maires se débrouiller avec ça. Il y a 15 000 réfugiés aujourd'hui en France, ce qui est assez peu. Il y en a beaucoup à Calais, il y en a beaucoup en région parisienne et dans quelques autres villes de province. Moi, je suis riverain du camp de la Porte de la Chapelle. Voilà. Donc, je vis ça tous les matins en sortant de chez moi. Je vis ce qui se passe autour du campement. Et on va, avec mon groupe à l'Assemblée nationale, essayer de voir comment on peut prendre la proposition de loi qu'a proposée Anne Hidalgo. Il faut que ce pays, et Emmanuel Macron a dit des choses sur le sujet qui sont rassurantes, mais maintenant, il faut passer à l'acte. On ne peut pas laisser quelques villes se débrouiller avec la gestion des migrants. On peut, dans notre pays, la France, accueillir 15 000 migrants et 15 000 réfugiés sur l'ensemble du territoire national sans que ce soit en dehors de notre portée.
Enfin, un embrouillon juridique est en train de s'ouvrir entre Calais et les autorités, la justice. Ça sera bien évidemment un débat que nous allons poursuivre dans les informés de France Info dans les jours, peut-être les semaines qui viennent. Dans quelques instants, comment réformer le travail de l'Assemblée nationale, le rendre plus efficace, plus rapide. Nous allons en discuter dans les informés de France Info. Il est 20h40, l'info avec Maxime Fayolle.
Paris pourrait bien décrocher les Jeux Olympiques de 2024. On apprend ce soir que Los Angeles et le Comité Olympique International se seraient mis d'accord pour l'organisation des Jeux de 2028. Une conférence de presse doit se tenir cette nuit à 2h du matin. Les salariés de GMS vont encore patienter pour connaître leur repreneur. Le tribunal de commerce repousse une nouvelle fois l'examen de l'offre de GMD. L'emboutisseur propose de reprendre 120 salariés sur 277. Prochain examen le 4 septembre. Nouvelle manifestation attendue au Venezuela. Aujourd'hui, la journée fut sanglante hier avec une dizaine de morts pendant la journée de vote sur l'Assemblée constituante. 40% des Vénézuéliens se sont déplacés aux urnes. Le début de la dernière rencontre de la première journée de Ligue 2 ce soir. D'ici 5 minutes, le coup d'envoi du match entre Auxerre et Lens, deux prétendants à la montée en Ligue 1. Et malgré la défaite des Françaises en quart de finale de l'Euro de football hier, le sélectionneur Olivier Échouafny devrait garder son poste. Le président de la Fédération nationale, Noël Le Graët, envisage même de le laisser en place jusqu'à la Coupe du Monde 2019.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
20h41, les informés de France Info, Rachel Binas de Valeurs Actuelles, Thierry Keller de Uzbek Erika, Nasser Ketan de Beurre FM et Stéphane Peu, député communiste. François de Rugy, le président, nouveau président de l'Assemblée nationale, veut moderniser le fonctionnement de l'hémicycle et aussi du Parlement, de l'Assemblée générale d'une manière plus large. Comment casser les codes sans casser la démocratie? Il va lancer ce grand chantier. Il veut par exemple changer la procédure parlementaire, la rendre plus efficace, raccourcir les délais entre la volonté de réformer et la traduction dans la loi. Et pour cela, par exemple, il veut réduire le nombre d'étapes. Il souhaite que certains textes soient examinés uniquement en commission et plus dans l'hémicycle. Pas de débat dans l'hémicycle. Est-ce que vous y êtes favorable, Stéphane Peu, député communiste?
Absolument pas. Mais alors, non seulement j'y suis pas favorable, je suis farouchement opposé, non pas à tout ce qu'a proposé François de Rugy.
On va lister un peu le reste après.
Il y a des choses... Bon,
ça, c'est un point quand même essentiel. Discuter. Ça veut dire certaines lois...
Non, mais le point essentiel... Et alors là, d'abord, je note au passage que François de Rugy, président de l'Assemblée nationale En Marche, dit exactement le contraire de François de Rugy, député écologiste, il y a quelques années dans les... Oui, exactement
Faculté
le contraire.
D'adaptation.
Mais il avait pris la tête d'un certain nombre de pétitions de parlementaires pour faire respecter justement le travail de l'Assemblée nationale, parce que c'est pas d'aujourd'hui que l'exécutif tente d'imposer à l'Assemblée le minimum de débats et des procédures accélérées. Mais dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui détient la légitimité dans ce pays? Il y en a un, c'est le président de la République, et ensuite, il y a les élus de la nation qui sont au Parlement. Le gouvernement n'a pas de légitimité. Le gouvernement procède du choix du président de la République. Donc, raccourcir les délais du Parlement, les réduire à la portion congrue, c'est donner au gouvernement illégitime. Le pouvoir illégitime, en dehors de sa nomination par le président de la République, mais il ne procède pas de la souveraineté populaire.
Mais quel rapport entre le fait de débattre en commission ou dans l'hémicycle?
Pardon, non, mais c'est la première fois qu'on entend que le gouvernement n'est pas légitime.
Légitime au sens de la souveraineté populaire.
Ouais, il ne faut quand même pas trop jouer sur les mots non plus.
Alors ce n'est pas du tout jouer sur les mots. Excusez-moi, Muriel Pénicaud, puisqu'on parle d'elle, puisqu'elle est sur...
Alors elle a touché 1 million, donc elle n'est pas légitime.
Si c'était un gouvernement communiste, vous ne diriez pas ça?
Non,
votre gouvernement, il serait légitime?
Non, mais c'est pas un problème de jugement, c'est un problème d'analyse de nos institutions. Un gouvernement n'est pas élu, on n'est pas dans une démocratie parlementaire où le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale. Bon. Ça se fait dans les régimes parlementaires. Nous ne sommes pas avec la Ve République.
Alors, vous voulez
dans ce type de régime.
Donc si on veut
respecter le travail de l'Assemblée, moi je suis membre de la commission des lois, mais je suis avant tout un député de la nation. Donc je veux bien sûr discuter dans ma commission
des
problèmes qui relèvent de la commission des lois.
Ça change quoi?
Je veux pouvoir donner mon avis sur les affaires qui sont traitées par la commission des affaires économiques.
Voilà,
je suis
ça.
Un député de la nation.
C'est-à-dire que
j'ai un avis sur
D'accord.
tout.
C'est ça.
Sur tous les sujets.
Thierry Keller.
Je comprends bien, la question c'est de faciliter le travail parlementaire. Bon, moi j'ai pas été député, mais j'ai été assistant parlementaire. Donc on sait bien que ça prend des plombes de pondre une loi. On sait que c'est long.
Ça a déjà été rationalisé.
On sait que c'est complexe.
Ça a déjà été rationalisé.
Je peux juste terminer. Oui. Et donc là, en l'occurrence, on est dans un gros package que Rugy se dédise par rapport à ce qu'il avait dit. Peu importe, c'est pas la question. La question c'est... Comment on fait pour que une loi qui est annoncée, elle soit suivie d'effet, pas 2 ans plus tard? Je crois que c'est ça la question, et qu'il faut plus être pragmatique qu'idéologue sur cette question.
On peut en effet se demander légitimement si le président de la République ne cherche pas à affaiblir le pouvoir législatif.
Le pouvoir législatif de procéder de cette manière?
Alors, en fait, ça serait pas déjà complètement surprenant, parce que ça fait écho, par exemple, à ces déclarations sur la réforme du droit du travail par ordonnance, etc. C'est pas complètement surprenant, ça relève pas de la paranoïa, loin de là. Déjà, il y a un certain nombre de procédures qui existent, et qui sont venues depuis 58 rationaliser un petit peu les échanges. C'est-à-dire qu'on a le 49-3, on s'en souvient, on a la procédure du vote bloqué, on a les ordonnances, on a le temps
législatif
programmé.
Donc pour vous, il n'y a pas besoin
programmé.
De fluidifier, d'accélérer le rythme du débat ?
Je trouve ça assez dangereux, l'idée que ça pourrait être acté en commission et pas en séance plénière sans débat public. Ça me paraît assez dangereux, en effet.
Nasser Ketan, est-ce qu'on ne risque pas, finalement, en voulant accélérer ces débats, de soumettre les députés, les parlementaires à la dictature de l'actualité, à la dictature de l'instantanéité? Réagir vite plutôt que de réfléchir.
Oui, enfin, de façon générale, le temps du politique, c'est un temps un peu rapide. Ouais. Donc, il est toujours constamment rivé un peu sur l'actualité. Moi, je crois que cette histoire, elle procède un peu, elle surfe sur le populisme de ces derniers mois. On dit un peu le dégagisme. Donc, on va dégager, donc on va réduire la Chambre du tiers, on va réduire le Sénat du tiers, on va réduire le Conseil constitutionnel du tiers.
Et on va laisser moins réfléchir.
On joue sur l'opacité. C'est vrai que le citoyen, les Français, pour eux, l'Assemblée, c'est un peu opaque. Le Sénat, c'est un peu opaque. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a pas longtemps, les députés, on n'osait pas trop les approcher. Donc, il y a comme ça, une espèce de truc un peu opaque, et puis donc on joue un peu sur cette idée qu'il faut un peu faire le ménage là-dedans, le dégagisme aussi dans les modes de fonctionnement. Donc moi je crois que il faut faire attention. Je crois que le député, c'est quand même la souveraineté populaire. Je crois qu'il a droit au chapitre lorsque des choses fondamentales qui engagent la nation sont mises sur le tapis.
Mais par l'élection d'Emmanuel Macron et des députés de la République En Marche, il y a quand même une volonté de changement aussi dans la manière de faire.
Oui, mais enfin, franchement, d'abord, il va falloir que tout ce monde-là apprenne que la France, c'est un grand pays, un grand et vieux pays démocratique, et ça ne se dirige pas comme une start-up. Voilà. Ça se dirige avec un certain nombre de règles, de processus.
Mais
là, il y a en ce moment,
aussi,
Emmanuel Macron a présidé la Conférence nationale des territoires. Il a annoncé que 500 000 élus locaux, c'était beaucoup trop. Mais enfin, le maillage des élus, pour l'essentiel bénévoles, dans nos villes et nos villages, est quelque chose qui est précieux pour la démocratie en France. Je ne pense pas du tout que vouloir les restreindre puisse alléger ou accélérer quoi que ce soit. Et puis, deuxièmement, il faut respecter les institutions. Les institutions, c'est un président qui préside, une assemblée nationale et un Sénat qui légifère. Et pour cela, il y a déjà des procédures qui interrompent. Et puis, moi, vous savez, député d'En Marche, le Nouveau Monde, moi, ce que je regarde, c'est que pour l'instant, ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale sont plutôt des textes de l'ancien monde. La réforme des ordonnances
sur le... Là, on est sur des questions techniques de rapidité parlementaire. On n'est pas en train de...
On est sur comment
on est en train de savoir si...
Ils vont utiliser les trois chambres pour faire passer les projets gouvernementaux. Parce que donc, moi, je suis au Conseil économique et social. Et
Jean-Philippe
est venu nous voir et nous a dit « Vous êtes la chambre du futur. Vous êtes la chambre de l'intelligence. » Et il nous a dit « Il y a certains projets de loi qui vont aussi passer par nous. » Je crois que là, ils sont en train de réfléchir à une reconception complètement différente des textes de loi qui vont passer et ils vont prendre les trois chambres et les utiliser un peu en fonction des événements et des projets.
Il y a d'autres mesures qui ont été imaginées par François de Rugy et dont nous reparlerons probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais je pense à une valeur de symbole importante pour les Français, la suppression des billets de train gratuits dont bénéficient les anciens députés et puis aussi la même retraite et la même assurance chômage qu'un salarié lambda pour les députés. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Quelle place pour le Front National dans cet hémicycle à l'Assemblée nationale? On ne les entend plus. Que sont devenus les députés du Front National? On en reparle dans un instant. Il est 20h50. Maxime Fayol pour l'info.
On devrait savoir cette nuit si Paris obtiendra ou non les Jeux Olympiques de 2024. A priori, tous les feux sont au vert car Los Angeles et le CIO ont conclu un accord aujourd'hui pour l'organisation des Jeux de 2028. Conférence de presse prévue à 2h du matin. Le perchiste grec Kostas Philippidis réclame 530 000 euros à la Grèce pour le mauvais entretien de sa piste d'athlétisme sur le stade olympique d'Athènes. L'homme champion du monde en salle il y a 3 ans s'est gravement blessé au genou en juin dernier. L'agresseur de Loriane Rossi passe devant le tribunal ce soir. Comparution immédiate après les coups assénés à la députée En Marche hier sur un marché de Bagneux. Un mois de prison ferme a été requis, décision dans la soirée. Et la mort de l'auteur et du comédien américain Sam Shepard, il avait 73 ans, connu notamment pour ses rôles dans Les Moissons du Ciel de Terrence Malick ou encore L'étoffe des héros de Philippe Kaufman.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
20h51, dernière ligne droite des informés de France Info. Est-ce que vous avez la même impression que moi? On n'entend plus les députés du Front National.
Oui. On les entend plus.
On les entend plus, on les voit plus.
On les entend moins. Et on a l'impression groupe, un petit peu que
ça diminue.
On a un petit peu l'impression que certains médias cherchent un petit peu leur jouet. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont disparu un petit peu des radars. En même temps, si on entendait parler de eux aujourd'hui, ça serait certainement pour des tensions et une crise en interne et voilà. Mais déjà, c'est pas les seuls. Les Républicains aussi. On entend très peu parler d'eux. C'est-à-dire que si vous demandez aujourd'hui aux Français qui est le responsable, le secrétaire général des Républicains, je suis pas sûre qu'une large majorité vous donne la réponse. Pour des raisons assez similaires également.
Parce qu'ils sont tous cognés, sonnés par le sanction des urnes.
À une période charnière.
On n'a pas beaucoup entendu les députés d'En Marche non plus. Hein.
Les députés En Marche et les députés la de la France voter, Insoumise,
mais on est sur le pas beaucoup.
Oui, quand même, les députés de la France Insoumise et les députés En Marche sont ceux qui tirent le plus leur épingle du jeu, qu'on soit ou pas d'accord avec eux, hein, c'est pas le sujet. C'est certain qu'on ne sait pas trop où est l'EFN. En même temps, l'EFN, je pense, ne sait pas trop non plus où il va. Et on entendra peut-être parler de lui soit en 2018, début 2018, pour le Congrès, voire même en septembre, début septembre, c'est pas impossible qu'il faille leur rentrer.
C'est en ce moment, hein, le débat parlementaire. Thierry Keller.
Je crois qu'il faut se remettre un petit peu dans l'ambiance de l'entre-deux-tours, où objectivement, on flippait qu'elle soit élue. Donc, premièrement, on peut se réjouir de la claque que Marine Le Pen s'est prise, et on peut se réjouir de ne plus entendre aujourd'hui...
Il y a 10 millions de Français qui ont voté pour elle. Hein.
On peut se réjouir que l'élection d'Emmanuel Macron et que l'ambiance dans le pays qui est suivie son élection ait minorisé le Front National, et c'est une première très grande bonne nouvelle. En revanche, là où effectivement, sans compter les dissensions internes sur lesquelles je ne reviens pas. Mais la dernière fois en France où le Front National avait été autant minorisé et autant atone, c'était avec l'élection de Nicolas Sarkozy qui avait suscité, je pense, à peu près dans les mêmes proportions, le même espoir que l'élection d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy n'a pas su tenir compte de cet espoir et enclencher de quelque chose derrière. L'enjeu pour Emmanuel Macron,
il est
exactement la même chose. Le Front National monte quand il n'y a pas d'espoir. Et donc aujourd'hui, il est bas. Félicitons-nous.
Oui, la société va beaucoup mieux.
Moi, je pense qu'il y a la descente aux enfers de Marine Le Pen. Je pense qu'elle va disparaître des radars dans quelques années.
Ah, vous croyez ?
Ouais, je crois que là, les gens, entre deux tours, ils ont vu à qui ils avaient affaire, un pantin, un polichinelle. Ils ont dit, nous, on a voté pour ça. On l'a vu dans le débat face à Macron, assez ridiculisé. C'est impossible de voter pour quelqu'un comme ça, que quelqu'un comme ça puisse avoir accès à des fonctions éminentes.
Mais
je crois que là, elle est en train de partir. Il y a une déliquescence du parti qui est en train de se faire. C'est en train de se battre à l'intérieur pour prendre des postes, etc. Le fait qu'ils aient pas de groupe à l'Assemblée aussi, ça diminue leur capacité à intervenir dans la sphère publique. Donc, ils ont quelques invitations comme ça dans les médias, mais ça sent pas très mauvais, à mon avis, pour Marine Le Pen. Hein.
Stéphane Peu, est-ce qu'ils sont à l'Assemblée, est-ce que vous les voyez beaucoup, les députés du Front National ?
Oui, ils sont présents. Alors,
Ils sont présents en séance.
Moi, le fait de pas avoir de groupe, effectivement, rend la prise de parole.
C'est une question, c'est est-ce que c'est un
effet d'optique ? Ils avaient des députés avant. La dynamique politique du Front National avec deux députés était plus importante que la dynamique politique du FN avec huit.
Je ne souscris, mais je ne partage pas du tout votre point de vue parce que d'abord, désolé, mais Marine Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle, elle a fait un score que jamais le Front National n'avait réalisé dans ce pays.
10,6 millions, c'est un record.
En faisant plus de 10 millions d'électeurs, ils ont battu tous les records qui étaient les leurs, y compris quand Jean-Marie Le Pen avait été au deuxième tour de la présidentielle en 2002. Donc, on ne peut pas complètement considérer que c'est un échec. Et je dis ça du point de vue de quelqu'un qui s'en inquiète beaucoup. Et la deuxième chose... Moi, qui m'inquiète davantage, c'est que tel que c'est parti et tel que j'entrevois ce que va être la politique d'Emmanuel Macron, et les premiers signes, là, moins 3 milliards d'impôts sur la fortune, de cadeaux pour ceux qui payent l'ISF, moins d'APL.
Et donc
mais une politique qui va, de manière encore plus décomplexée qu'avant, favoriser les inégalités et creuser les inégalités dans le pays. Mais pourquoi voulez-vous que le Front National parle ? Ils ont
un gouvernement. Vous pensez que stratégiquement, ils ont intérêt à se taire en ce moment ?
En tout cas, ils ont un gouvernement qui va mener une politique qui va complètement renforcer ou légitimer.
Il n'y a pas d'automaticité entre la situation sociale et le vote FN. Le vote FN, il augmente quand la France, elle doute d'elle-même.
Et enfin, le fait qu'ils aient fait 10,5 millions de voix au présidentiel et qu'ils se retrouvent avec quelques députés et pas de groupe. Moi, très franchement, pour être quelqu'un qui les combat farouchement, je considère que ce n'est pas bon pour la démocratie. Voilà. Parce que je pense que c'est un courant d'idées, ça existe dans le pays, et on ne fera pas baisser, on ne combattra pas efficacement le Front National en le privant de parole et de groupe à l'Assemblée nationale et de représentation à la juste proportion de ce qu'il représente dans le pays, d'une part, et d'autre part, on ne combattra le Front National qu'en combattant les causes de son influence. Et mais les causes de son influence, c'est l'accroissement des inégalités sociales dans notre pays.
C'est quand même étonnant que, face justement à cette politique d'Emmanuel Macron, qui n'est pas ce qu'a défendu le Front National, on n'entend absolument pas, ou alors ils ne sont pas audibles. Ils ne parlent pas ou ils ne sont pas audibles.
La campagne a été extrêmement longue. C'est le parti dont on a le plus parlé pendant 2 ans. Ce n'est pas complètement étonnant qu'il y ait une période de creux, surtout quand on sait les tensions qu'ils connaissent en interne. Il n'y a rien de surprenant, en fait, là-dedans. Et se réjouir d'une défaite...
Mais c'est étonnant parce que ça a commencé, si vous voulez, il y avait quand même une sorte de bras de fer de l'opposition. C'est à qui sera le vrai leader de l'opposition
entre Mélenchon
et Marine Le Pen.
Il va y avoir des changements au sein du Front National, pas simplement, à mon avis, de logo ou de nom. Il n'est pas impossible non plus que dans les prochains mois, Florian Philippot, par exemple, quitte le parti à la suite de grosses tensions.
Tout
à fait. Et puis, il y a des questions qui restent encore à régler pour le Front National, comme celle de l'euro, avec pour eux des espèces un petit peu d'échappatoires qui commencent à se dessiner. Donc,
on entendra parler du
Front National.
Oui, moi je crois que le Front National, il a fait les 10 millions de voix qu'on connaît, mais moi je pense que aujourd'hui c'est aussi au parti qu'on disait vieux, etc. Donc à ceux qui sont en train de se réformer, les Républicains, les gens issus de la Nouvelle Gauche, etc. À eux de montrer aussi maintenant qu'ils ont compris la claque, et c'est aussi à eux maintenant aussi de s'opposer et peut-être de remplir ce que le Front National est en train de faire. Quoi.
Merci donc, à tous les quatre.
À eux de travailler.
D'être venu dans les informés de France Info, Nasser Khétan, Stéphane Peu, Thierry Keller et Rachel Binas. Nous allons nous retrouver demain à 20h pour les informés qui continuent tout l'été. Vous le voyez, l'actualité ne s'arrête pas.